Rebonjour, M. Desfossés.
Rebonjour, Mme Gaudreau.
Ah, bon, là, on vous entend. Ça, je trouvais ça important que les gens vous entendent correctement. Alors, je veux juste, on va revenir, là, pour, ben, je ne voudrais pas répéter trois fois, là. Donc, le 24 janvier 2013, les médecins de Sainte-Justine vous annoncent que votre fils, qui a 4 mois, est atteint d'un problème génétique, donc sa maladie qui détruit les cellules responsables des mouvements. C'est ce qu'on écrivait hier dans la presse. Alors, son corps ne sécrète pas la substance requise pour les protéger. C'est ce qu'on appelle l'amyotrophie spinale. C'est bien ça, M. Desfossés?
Exactement, une maladie rare qui touche une naissance sur 6 000, donc 7 enfants par année qui naissent avec cette maladie-là ici au Québec. Aux États-Unis, c'est 1 ou 12 heures.
OK. Dites-moi, peu de temps après, vous apprenez quoi? Qu'il y a un traitement expérimental qui existe à ce moment-là?
Oui, effectivement, on a eu cette chance-là, cette maladie-là. Là, ils ont découvert le gène responsable en 1995. Et dans notre malchance, on a eu cette chance-là d'arriver dans la décennie, dans les années où les recherches étaient rendues au stade d'être testé sur les humains. Alors, on ne parle plus ici là de médicaments expérimentaux, mais plutôt en phase de recherche. Il est expérimental quand il est testé sur les animaux, mais quand on arrive au stade de faire les essais sur les humains, on a déjà une bonne connaissance là de son fonctionnement, de ses toxicités. Alors, c'est plutôt un médicament qui est en processus de développement pour éventuellement aller sur le marché. Juste préciser sur l'usage du terme expérimental, les humains, quand ils font participent à des essais cliniques, ils ne sont pas des cobayes ou des cochons d'Inde. Quand on arrive à ce stade-là, c'est déjà un très bon signe. Alors nous, on a eu cette chance-là, là, au même moment où on a eu le diagnostic, on arrivait dans les années où les essais cliniques étaient commencés sur les humains. Alors c'était une bonne nouvelle puisque c'était depuis 100 ans le tueur génétique numéro 1 de la planète pour les enfants en bas âge.
OK. Là, M. Desfossés, les choses se compliquent parce que vous apprenez que l'IAM ne répond pas aux critères de l'étude, en plus pour une banalité de ce que j'ai compris.
Ben oui, ben écoutez, une banalité, comme je dis, on est arrivé dans les années où les essais cliniques commençaient. Malheureusement, les essais cliniques, ça se doit d'être précis et pointu pour aller chercher les données qui seront convaincantes pour éventuellement fixer le bon prix, d'ailleurs, sur les médicaments. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas pu faire partie là de l'étude à 2 semaines près, alors, parce que les critères d'âge étaient importants.
OK. Et là, vous vous êtes battu, vous avez supplié la société. Est-ce que c'est ISIS qu'on dit? Est-ce que c'est parce que ça a changé de nom depuis ce temps-là?
Oui, effectivement. À l'époque, ça s'appelait ISIS. Maintenant, c'est IONIS.
OK.
Et puis, c'est un laboratoire qui lui-même a racheté les brevets, là, a passé des ententes avec l'université qui avait développé la piste médicale, la molécule en question. Et puis, cette IONIS, elle, par la suite, a revendu les licences de commercialisation à Biogen, là, où ce que, là, c'est une pharmaceutique, là, c'est elle qui commercialise le médicament.
OK, alors là, vous leur avez demandé de vous vendre directement le traitement expérimental. Vous avez fait des pressions sur Sainte-Justine pour qu'ils puissent importer grâce à une permission spéciale de Santé Canada. Vous êtes adressé à des chercheurs, des laboratoires pour qu'ils puissent fabriquer une copie. Et c'est quoi, M. Desfossés? Tout le monde avait peur des poursuites à ce moment-là?
Ben, oui, donc effectivement, on a demandé un accès compassionnel au laboratoire qui menait les essais cliniques. Malheureusement, jusqu'à l'approbation de leurs médicaments, ils se sont toujours refusés. Ça fait partie des gros problèmes du processus, cette capacité-là là, que les pharmaceutiques ont à mettre des critères et ne pas nécessairement donner accès. Dans le cas des maladies rares, chaque patient compte, là. Alors, il devrait y avoir la possibilité du gouvernement, en fait, d'obliger les pharmaceutiques à laisser des accès compassionnels. Mais dans notre cas, ici, se sont refusés. Alors, effectivement, ça ne nous a pas donné d'autre choix que d'essayer de trouver une façon d'accéder à la molécule parce que ça prend pas une usine de plusieurs millions de pieds carrés là pour construire ce genre de médicament-là. C'est pas des Tylenol ou un produit qui est vendu à des millions de personnes. Mmh. Ça se fabrique dans un espace qui peut rentrer dans un appartement là. Mmh. Alors on a tenté effectivement de faire fabriquer le produit ici au Québec, au Canada, et puis malheureusement. Ça faisait peur à tout le monde.
OK. Dites-moi, quelques semaines plus tard, vous avez vu une vidéo d'un enfant américain qui a la même maladie, mais de ce que je comprenais, qui était même, je pense, plus jeune que votre garçon, qui est même que ses symptômes étaient encore plus graves, mais vous le voyez bouger davantage. Il se passe quoi à partir de ce moment-là?
Oh, ben c'est un peu comme comme on a découvert la maladie avec une mauvaise intuition. Dans ce cas-ci, c'était une bonne intuition en regardant la vidéo qui était sur les médias sociaux. Mon attention était attirée par les mouvements qu'il faisait. Je trouvais qu'il avait de bons mouvements pour l'âge qu'il avait. Et puis, ce qui m'a porté à poser des questions aux parents de cet enfant-là. Et puis, au cours des différents échanges, il m'a expliqué. En fait, j'ai compris qu'il avait réussi à faire ce que j'avais pas réussi à faire là, fabriquer un traitement. Une catégorie de médicaments qu'on appelle antisens, là. Alors, voilà, c'est là que notre relation a commencé.
OK. Et là, la suite des choses, M. Desfossé, c'est quoi exactement? Là? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Ben, dans les faits, c'est sûr que c'est un processus là, complexe de fabriquer ça. Alors, le parent était quand même heureux de pouvoir partager les soucis et les frais de cette opération-là. Alors, pendant un an, on a pu bénéficier là en faisant des allers-retours à l'étranger parce qu'effectivement, encore là, les gens étaient pas enclins à le produire ici, malgré le fait que les laboratoires, les hôpitaux, les universités ont les moyens de produire ce genre de médicaments-là. Mm-hmm. Alors, pas plus pour l'injection, il fallait aller à l'étranger. Au bout d'un an, comme ça, malheureusement, la procédure qu'on avait pour faire fabriquer le médicament là est un peu tombée à l'eau parce que c'était mon tour. Je reviens sur l'histoire là qui ouais. est parue hier. L'entreprise qui nous vendait le produit, en fait, a été informée sur ce qu'on faisait, à savoir que on devait, nous, utiliser ça. C'est un produit qui est vendu pour de la recherche. Okay. Donc, il n'y a pas de licence nécessairement là pour vendre des produits sur les humains. Et puis, quand l'information est venue à leurs oreilles, du coup, c'était devenu délicat pour eux là, de continuer à nous le fournir. Alors, on a dû passer au plan B, où ce qu'on a fouillé. On a cette chance-là là, dans la myotrophie spinale, ce qu'on appelle communément le pipeline. Il faut savoir là, que depuis 2009, en fait, la fondation, là, l'organisation Cure SMA, qui est une association de patients mondiale pour la myotrophie spinale, a investi, a levé des fonds pour 70 millions de dollars là, mm-hmm. en 10 ans. Ils ont contribué, évidemment, à faire développer l'ensemble de ces médicaments-là. Donc, il y a une douzaine de médicaments, là, d'ailleurs, suite à l'approbation de ce premier traitement-là, depuis, en l'espace d'un an, il y a un deuxième traitement qui a été approuvé par la FDA aux États-Unis, là, qui est une thérapie génique. Alors, dans ce cas-là, c'est une seule injection et puis on a réglé le défaut génétique qui cause la maladie, quoi.
OK, mais c'est toujours pas accepté ici, M. Desfossé.
La compagnie, suite au dépôt de la FDA, de leur approbation, vont après ça, selon la grosseur et les possibilités de marché, déposer les mêmes requêtes tour après tour dans chaque pays. Cette compagnie-là, là, qui pour la thérapie génique, va déposer là en début d'année à Santé Canada. Règle générale, là, un coup que c'est approuvé à la FDA, ça prend à peu près 3 ans avant que, effectivement, le processus administratif ici fasse en sorte que les patients puissent éventuellement avoir accès. C'est un peu aberrant quand on pense à toutes les applications où on peut tracker toutes les informations, les notifications, mais ici, l'État puis les organisations, les instituts ne suivent pas le développement, là, attendent okay. le dépôt avant de commencer à collecter les infos puis d'analyser les dossiers.
OK, mais là, les gens se demandent, là, au moment où l'on se parle, est-ce que votre fils a pu recevoir ce traitement-là ou pas?
Oui. Alors, après 2 ans et demi de galère, en fait, pour faire en sorte que la maladie ne progresse pas chez Liam, la province du Québec, soit dit en passant, a été la première à accepter de rembourser le traitement. Ça leur a pris un peu de pression, mais 2 ans plus tard, Ça s'est fait. Donc, depuis 2016, l'IAM, à partir du moment où ça a été approuvé à la FDA, la compagnie Biogen qui commercialise avait un programme d'accès compassionnel et on fournit gracieusement pendant 2 ans la molécule. Okay. Et à partir de décembre 2018, la RAMQ là, remboursait pour les types 1. Et puis, un an plus tard, pour les autres types, soit janvier 2019, là, alors maintenant, au Québec, tous les patients SMA là, ont, des fois avec difficulté dans le processus, mais ont accès, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'avoir le Spinraza.
OK. Dites-moi, votre fils, là, avec ce traitement-là, actuellement, il va comment?
Ben, il va très bien. Il va très bien, à savoir que souvent, là, c'est des enfants qui se ramassent hospitalisés. Mais nous, depuis que l'IAM a accès à un traitement, en fait, il y a zéro journée d'hospitalisation.
Ah oui.
Normalement aussi, évidemment, en grandissant avec les muscles limités, là, ces enfants-là bougent de moins en moins. Là, ça devient de plus en plus lourd à lever, puis ils font pas de muscles. Alors,
donc ça ne le guérira pas. Donc ça ne le guérira pas, mais ça prolonge sa vie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Ben, en fait, c'est qu'on a stoppé la progression de la maladie. Alors, c'est sûr que le médicament, il est pas là pour refaire pousser les muscles refaire pousser les neurones qui sont partis. Okay. Mais à ce stade-ci, il est stable et donc il pourrait très bien vivre là le reste de sa vie, à savoir que j'amène le point là. Maintenant, tous les gens vivants avec la myotrophie spinale au Québec ont accès au traitement. Ça va être important qu'il y ait un dépistage qui puisse se faire comme on dépiste la fibrose kystique.
Absolument.
Et puis d'autres maladies à la naissance, parce que quand ces médicaments-là sont administrés avant l'apparition des symptômes, comme dans notre cas, l'IAM, aux alentours de 4 mois, là, on a commencé à avoir des doutes. S'il avait été dépisté à la naissance et que dans le premier mois de vie, il avait reçu le traitement, ben notre garçon, il marcherait là aujourd'hui, il serait tout à fait typique en frais de musculation.
OK, alors donc la bataille, elle est là maintenant, c'est pour le dépistage, parce que clairement, il y a un traitement au moins qui fonctionne, qui prolonge, mais qui empêche la maladie d'évoluer plus rapidement, c'est bien ça?
Totalement, alors la logique au coût du médicament, c'est la moindre des choses de penser de l'administrer dans la bonne fenêtre thérapeutique pour avoir le plein potentiel du médicament. À ce titre, l'Ontario a commencé depuis janvier 2020, là, font un dépistage systémique pour la myotrophie spinale dans un principe d'universalité là dans les lois de santé au Canada. Ça serait la moindre des choses là qu'on suive le pas et le plus rapidement possible.
Ça, c'est clair. Monsieur Desfossés, merci d'avoir été là ce matin nous raconter l'histoire de votre garçon. On a une bonne pensée pour vous. Puis visiblement, vous avez travaillé fort, mais ça a donné des résultats. Vous vous êtes battu puis vous continuez de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Desfossés.
Merci à vous. Bonne
Merci, au revoir. Rianne Desfossés, résidente de Sorel. Alors voilà qui s'est battue pour son garçon. Vous voyez ce que ça donne? Heureusement, donc le traitement fonctionne. Évidemment, ça ne guérit pas la myotrophie spinale, mais au moins, ça empêche la maladie de progresser. Alors maintenant, il faut parler de dépistage. On aura l'occasion de s'en jaser.